Salut Daniel. Eh ben, après l'échec électoral de notre cher président dimanche soir, qu'est-ce qu'il a fait, notre cher président? Il a fait un mini remaniement, mais surtout, il a changé les communicants de l'Élysée. Voilà, il a muté Martinon à New York, comme quoi la valeur travail est à géométrie variable dans ce pays, puisque après avoir si bien travaillé, c'est-à-dire mettre autant de faire autant d'erreurs, on a une belle promotion. Et donc, la communication de l'Élysée va changer pour expliquer aux Français que les réformes sont bonnes pour eux. Voilà, parce qu'ils sont cons, les Français, c'est vrai. On comprend rien, que les franchises médicales, c'est pour notre bien, que la révision du code du travail, ça va être pour notre bien, que la fermeture des tribunaux, c'est pour leur bien, enfin, tout ça, c'est pour leur bien, quoi. C'est vrai, on est vraiment idiots. Et moi, je me disais, par exemple, si un restaurateur qui fait de la bouffe de merde n'avait plus de clients dans son restaurant, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il se dit, je vais faire de la meilleure cuisine. Non. Il change les assiettes, voilà. Notre président, il change les assiettes. Hein. Il fera toujours autant de la merde. Et par contre, ce sera des assiettes neuves. Bon, alors, on va peut-être pas se laisser berner. Allez, salut, au revoir.
Le 19 mars était la fin des hostilités en Algérie. On n'a pas vu le moindre mot, ni à la radio, ni à la télé. Il est actuellement 16 heures passées. Je viens d'entendre, d'abord, si j'y suis. Et je m'étonne que ces tas de cons ne pensent pas au 19 mars. Alors on a fait le 19 mars, 5e anniversaire de la guerre d'Irak, mais on oublie la fin des hostilités en Algérie. On a été vraiment pris pour des pauvres cons. Au revoir, à bientôt.
Joyeux anniversaire la guerre, joyeux anniversaire la guerre. Joyeux anniversaire, la guerre. Joyeux anniversaire. Et voilà 5 ans que George W. Bush a déclaré la guerre à l'Irak. 5 ans déjà, ouais. Et monsieur reste droit dans ses bottes en soutenant que l'Amérique gagnera. Gagnera quoi? Certainement le pétrole, hein, à défaut de quelques vies perdues. George W. Bush, ou l'art de faire la guerre pour la paix. Drôle de paradoxe que mon esprit étroit ne peut saisir. C'est fou de constater comme un président et son gouvernement peuvent jeter le discrédit sur toute une nation. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Hein?
Oui, et heureusement que le quelqu'un n'était pas le président à l'époque, il y a 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, bon anniversaire à la guerre, ce serait. Ça se fait très devant des cercueils de petits Français. Ah, notre actuel président, comme vous le savez, est un grand ami de George W. Bush, un ami vraiment de cœur, de sentiments et de politique également. Eh bien, aujourd'hui, on va célébrer, comme on dit, oui, célébrer, entre guillemets, ce sinistre anniversaire, cette guerre en Irak qui a commencé il y a 5 ans, Iraqi Freedom, vous vous souvenez. Et à travers les reportages que nous avons faits un peu partout dans le monde, mais enfin essentiellement quand même aux États-Unis, mais en France aussi, on va revenir sur toute une série d'images, de plans, de rencontres. Au cours de ces 5 années. Et puis on va partir, vous allez le voir, d'un message qu'un auditeur a laissé il y a 5 ans. Au fond, c'est l'anniversaire d'un message laissé dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Par ailleurs, les messages sur mai 68, les témoignages, vos témoignages arrivent de plus en plus nombreux et c'est de plus en plus précieux et de plus en plus beau, émouvant, rigolo, compétent, des angles, c'est bien ça, c'était donc bien ça. Cette histoire n'a pas encore été, ça peut paraître incroyable, depuis 40 ans, avec tellement de commentaires, à peine les événements étaient-ils finis que les commentaires allaient bon train, mais les témoignages des gens, comme vous et moi, eh bien, on en manquait, et voilà, ils arrivent dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Donc, continuez, toutes sortes de témoignages, nous les attendons avec plaisir et impatience. Donc, aujourd'hui, anniversaire, 5e anniversaire d'un message laissé dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, je le répète, et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans cette sacrée boîte vocale.
Allô, ici les amis d'André Pochon, ici les amis du Jura. Après avoir lutté contre une porcherie il y a quelques années, Nous sommes à nouveau emmerdés. C'est par une pseudo-compostière qu'on a installée dans un milieu humide à Lemuy. Il y aura un éco-festival aura lieu à Salins-les-Bains, dans le Jura, du 2 au 6 avril. Nous allons aussi contacter les amis des repères de Nansou-Sainte-Anne. Ah. Salut Daniel, bonne journée.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je suis Didier, j'habite Genève, je travaille à Genève, je suis français. Je viens juste entendre le message de ce monsieur-là qui dit qu'il fait la vigie devant l'OMS tous les jours. Alors moi, je suis chauffeur de bus à Genève, j'y passe devant avec la ligne 8. Ils y sont tous les jours, quel courage de dénoncer des choses aussi laides que ça. Et je peux vous confirmer qu'ils y sont tous les jours. C'est vraiment des gens à soutenir. Et deuxième chose, il y a encore, il y a encore des grèves dans l'enseignement français. Comment on ne peut pas s'offusquer de toutes ces suppressions de postes dans les lycées, dans les collèges, dans les banlieues, de partout où il en faut, au contraire on en enlève. Il faut que les gens ouvrent les yeux et comprennent que ce système est tellement mal fait que tout est fait en fait pour qu'on puisse mettre nos enfants dans le privé. Non, c'est pas une bonne solution. Non, il faut pas en arriver à ça. Voilà. Moi, j'habite Genève, je suis marié avec une Suissesse. Le système est un peu comme ça. Je m'y bats tous les jours contre. Et j'arrive quand même à avoir une école publique qui est de qualité égale à celle qu'on retrouve en France. Mais j'écoute votre émission tous les jours, j'écoute vos commentaires. Il faut continuer, il ne faut pas se laisser abattre par ce gouvernement de profiteurs, mais pas dans le bon sens. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. C'était Didier de Genève.
This is a special expanded edition of the CBS Evening News.
Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing.
Fire and forget.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec toute l'équipe. Bon anniversaire à la guerre.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour Monsieur Mermet, Ali, un Irakien à Paris. En apprenant les nouvelles ce matin, je me suis précipité sur le téléphone en appelant Bagdad, ma sœur. Et après même tout essai, j'ai réussi à la voir. Elle est courageuse, une femme irakienne, qu'elle a connu les bombardements de 1991, même pendant la guerre de Irak-Iran. Mais derrière sa voix, il y avait ses filles qui pleuraient, parce qu'ils étaient réveillés ce matin avec les bombardements. Et une d'entre elles, elle a connu ça quand elle avait 2 ans, et elle est traumatisée. Elle me suppliait de venir la chercher pour l'éloigner de ces bombardements. Monsieur Bush promet la tranquillité au peuple irakien et Monsieur Saddam demande que les Irakiens sacrifient. Alors ni Bush ni Saddam, nous voulons Al-Salam. Là où les Français ils ont soutenu les Américains pendant le bombardement de 11 septembre, qui vient faire la même chose pour soutenir le peuple irakien contre cette guerre stupide. Merci.
Anniversaire d'un message, aujourd'hui, 5 ans plus tard, anniversaire de ce message laissé par un auditeur irakien il y a 5 ans. 5 ans plus tard, vous connaissez les bilans de cette guerre, même s'ils ne sont discutables et discutés par quelqu'un comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien collaborateur de Bill Clinton, qui estime avec d'autres observateurs qui enseignent par exemple à Harvard comme Linda Binns que le coût total de cette guerre s'élève à 3 000 milliards de dollars Et le même coup pour le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que ce coup pour les États-Unis. C'est une façon de compter. L'équipe Bush a évidemment menti sur le coût éventuel de cette guerre, mais l'équipe Bush a menti tout au long, depuis les armes de destruction massive de Saddam Hussein jusqu'à son lien supposé avec Al-Qaïda. Pour un sixième du coût de la guerre, les États-Unis pourraient assurer à leur système de sécurité sociale des fondements solides pour plus de 50 ans sans réduire les prestations ni augmenter les cotisations. C'est les générations futures qui paieront cette guerre. Et qui a véritablement gagné, interroge Stiglitz. Eh bien, ce sont les compagnies pétrolières et les compagnies du secteur de la défense, notamment, évidemment, la société Halliburton, qui dirigeait le vice-président Dick Cheney, qui est monté en flèche, on s'en souvient, dans les valeurs sont montées en flèche. Aujourd'hui, 52 000 anciens combattants ont été diagnostiqués souffrant de troubles post-traumatiques. Le gouvernement américain devra payer une pension d'invalidité à environ 40% des 1,65 million de soldats qui ont été déployés en Irak, c'est-à-dire 660 000 pensions d'invalidité. Évidemment, tout cela, c'est le côté des États-Unis où il y a des comptes, il y a des quantités. On avance le chiffre des victimes parmi les soldats américains à 4 000, un peu moins de 4 000. Mais du côté irakien, que sait-on ? Eh bien, rien du tout. On estime, ce sont des estimations qui vont de 200 000 à 1 million de victimes, parfois jusqu'à 2 millions de victimes. On n'en sait rien. Combien de personnes déplacées ? 2 millions, 4 millions, cela non plus, on n'en sait rien et ça dit tout. Cette différence dans la façon d'apprécier, de mesurer les dégâts de cette guerre disent tout sur cette guerre. On va à travers les archives de la Basse Égypte depuis cette époque, depuis ce message, cet auditeur irakien, retracer un peu toutes ces années avec une pensée un peu vertigineuse, une hypothèse terrifiante. Si l'actuel président avait été président à l'époque, que célébrerions-nous aujourd'hui?
From NBC News, this is a special edition of Today. America Strikes Back.
Drink a lot. We drink a lot. Alors là, c'est un banc où il y a 1, 2, 3, 4, 5 filles et un jeune homme. Et que vous êtes tous des militaires?
Oui.
Jessica.
Candy.
Christina.
Mandy.
Kimberly.
Ricardo.
Qu'est-ce que vous faites en fait sur le porte-avions?
Aviation logistics.
Aviation logistique.
I cook food.
Cuisinière.
Aussi.
I work with pilots.
Vous travaillez avec les pilotes, vous faites quoi?
Plane zap.
Direct plane.
Ah, d'accord, c'est ceux qui dirigent les
avions sur le porte-avions, c'est ceux qui mettent à la manœuvre.
Voilà.
Yeah.
Vous venez d'où, par exemple?
A New York. California.
Also, Southern California.
Brooklyn, New York.
Brooklyn, New York.
Florida.
Florida, ça c'est vraiment les quatre coins des États-Unis. Et alors, pourquoi vous êtes engagé dans l'armée?
Change of life.
Changer la vie, changer de vie, ouais. Yeah.
Travel, see the world.
Pour voyager, pour voir le monde.
Fight for my country.
Alors moi, c'est défendre mon pays.
To see things and to do something for my country, something important.
Pour voir les choses, mais aussi pour faire quelque chose pour mon pays.
To keep the peace.
Pour faire la paix, pour garder la paix.
Yeah. Peace, not war.
Qu'est-ce que c'est la menace aujourd'hui?
Terrorism. You know, they can come anywhere. They can come here, they can come to America, anywhere in the world. Terrorists. If one person don't do something, they keep going and they keep going. They can go anywhere and they can do anything.
Les terroristes peuvent frapper n'importe où, peuvent aller n'importe où, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent où ils veulent. La menace est partout, oui.
Leurs ancêtres, c'était le nazisme, leurs grands-parents, c'était le communisme, et eux, c'est le terrorisme. C'était en décembre 2002, à Marseille, le USS Truman, un porte-avions américain, faisait escale en route. Il était pour le Golfe. Les États-Unis étaient alors traumatisés, sous le traumatisme des attentats du 11 septembre. Et Ces jeunes gens manifestent comme toujours de cette gaieté, des guerres joyeuses, avec des bons sentiments et des grands projets patriotiques. Le patriotisme aux États-Unis, c'est bon pour les pauvres, parce que c'est les pauvres qui sont allés faire cette guerre et qui ont trinqué. Mais on va le voir à travers d'autres témoignages de ce jour-là à Marseille, qu'en France, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était. Seules des personnalités comme Bernard Kouchner ou Pascal Bruckner, à l'époque, ont soutenu l'invasion d'Irak.
Alors, on retrouve là tous les deux sur la canne-bière. Là, d'un côté, il y a la manifestation avec des slogans « Stop Bush » et de l'autre côté, il y a vous qui redescendez vers le Vieux-Port. Est-ce que vous avez compris de quoi ça parlait, cette manifestation ?
Yes, I do. You guys are disagreeing with Bush's decisions.
Vous, vous êtes contre ce que dit George Bush et les politiques qui est prises.
But what you guys fail to realize is President Bush of the United States is looking out for us first. He needs to look out for his country, okay?
Mais ce que vous oubliez de voir, c'est que George Bush s'occupe de nous d'abord. Il s'occupe d'abord de son pays.
Okay. The stuff that's happening right now never happened until September 11th went down.
Ce qui s'est passé là, ça s'était jamais arrivé avant le 11 septembre, avant la chute des deux tours.
Ever since that has happened, our president, which is President Bush,
et depuis ce moment-là, notre président, le président Bush,
he's gotten more links towards different countries like Iraq, that has got nuclear weapons, and that is involved with the Taliban.
You know, il a trouvé plein de liens avec les pays étrangers comme l'Irak qui a l'arme nucléaire et aussi les talibans. Il y a un lien entre les talibans et Saddam Hussein?
Si. Yes, oui. Oui.
For sure.
That's what we're trying to figure out.
C'est ce qu'on essaie de trouver.
And now, so what happens from now till then is what happens. Okay?
Et ce qui risque d'arriver après, c'est ce qui arrivera.
Iraq should be ready.
L'Irak devrait être prêt.
Iraq should be ready.
L'Irak
ready
devrait
for
être
us. Ready. Us, right
prêt
here.
Pour nous. À nous ici.
We're coming.
On arrive.
We're coming.
On arrive.
All right? We're going to see you soon.
On va vous voir bientôt.
Iraq.
Quel âge vous avez l'un et l'autre?
23.
23 ans et
19
ans. 19 ans et vous êtes déjà sur un porte-avions.
I'm happy.
C'est la première fois que vous sortez des États-Unis?
My first time.
Première fois. Mais est-ce que c'est pas un peu bizarre de découvrir le monde avec le risque de guerre qui pend au-dessus?
Yeah, that things like that bother me, but
ouais, ça me gêne un peu.
They don't understand, like we don't understand sometimes, and it gets mixed up.
People don't like us.
Les gens ne nous aiment pas.
Very.
We've been lost.
On était perdus dans Marseille.
For 2 hours.
Pendant 2 heures.
And we don't know where we're at.
Et on savait pas où on était.
And then we come to somebody and we ask for help.
Et on est allé voir quelqu'un en lui demandant de l'aide.
And they're like.
Et lui, il a tourné le dos, il est parti.
Okay, you hate Bush. Yes. Why be rude to me?
Vous d'accord, vous détestez Bush, mais pourquoi vous êtes méchant avec moi?
Yeah,
et puis il s'en va encore.
Okay, have a good one. Take
care. Good luck.
Clean up the dog shit, because I don't like stuff.
Et enlever les merdes de chiens, parce qu'on ne peut pas marcher dans votre pays.
We have no ambition in Iraq.
Good morning, America.
We have no ambition in Iraq.
I approve this.
We have no ambition in Iraq. No justice, no peace. No ambition in Iraq.
Attention, c'est chaud, ouais, je vous le préviens, hein. On est dans le coin du Marengo, ça va être chaud. On est là avec de l'Ascar qui représente hardcore.
Non, nous sommes des jeunes bien civilisés de Marseille.
Je suis américain, français.
Du centre-ville, nous ne sommes point des délinquants.
Non, non, non.
Nous sommes des jeunes d'avenir, nous représentant la France. Nous sommes les enfants de Raffarin.
Attends, je chante un petit
mec morceau. Qui change de politique, cet enfoiré.
Là. Avec un petit morceau. Moi, c'est Rico. Freaky chips on the hip chips. Gotta get star quips. Don't sleep, loot chips, sap chips, is the chips. Mais en tout cas, ils sont un peu sauvages. Ils sont excités. Dès qu'ils descendent du bateau, ils sont excités. Ils se battent entre eux et tout.
Moi, je trouve qu'ils ressemblaient plus à des rappeurs qu'à des bidasses.
Ah, c'est des mecs du ghetto. Hein. Ils recrutent des mecs, ils ont la rage comme nous. Ils les mettent dans l'armée pour aller tuer du rebeu. C'est pas bien, ça.
Et vous avez vu quand même ceux qui vont aller faire la guerre à Saddam. C'est des gars comme vous, quoi. C'est des gars exactement pareils.
Ils se rendent pas compte de ce qu'ils se font parce qu'ils ont 20 ans, 21 ans. Et moi, peut-être qu'à leur place. J'aurais été à l'armée, je ne saurais pas vraiment la cause. Parce que moi, à mon avis, ils ne se rendent pas compte pour quelle cause ils combattent. C'est tout. Ils ne savent pas. C'est des jeunes, ils ont besoin de sous. Ils s'engagent à l'armée pour gagner leur vie, à mon avis. Mais peut-être ça va se passer comme en Somalie. Tout ce que je sais, ils se sont fait casser le cul par les Somaliens. Bien fait pour eux. Enfin, comme je pense, c'est que de l'économie, étant donné qu'il n'y a pas de politique, en fait. C'est que de l'argent. En Irak, tout comme en Arabie Saoudite, il y a du pétrole. et que Saddam Hussein, bien sûr, c'est un dictateur, il n'y a pas de problème. Okay, il a fait du mal à son peuple, au Kurdistan, avec des guerres contre l'Iran qui ont duré des dizaines d'années. Il n'y a aucun problème,
ouais, ouais.
Au courant. Mais il y a une chose qui est sûre, que Saddam Hussein, ce n'est qu'un bouc émissaire dans toute cette histoire. Les Américains, je veux dire George Bush, la guerre qu'il mène, ce n'est pas contre une manière de penser ou contre un homme qui est censé représenter le mal. Simplement, pour moi, il combat l'Irak et les Irakiens. Point final. Et c'est le pétrole. Ils ont faim de pétrole, ils ont faim de sous. En tout cas, rien d'héroïque dans leurs actions et que le fait que la France les appuie, ça me dégoûte. Et de toute façon, comme il a dit Einstein, toute action ramène réaction, c'est ça ? Action-réaction. Ah ben, ce qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient, ça va revenir sur eux. C'est tout. Tout ce qu'ils font en Orient reviendra en Occident. Quand tu me tapes, si j'ai moins de rendre des couches, je te les rends. Alors imagine pour des gens de là-bas. Ils font du mal de partout, de toute façon.
Get ready. Iraq should be ready. We're coming.
On arrive.
We're coming. We're going to see you soon.
On va vous voir bientôt.
Iraq should be ready.
The passage is intense. But if you complete the journey, you will find your destiny among the world's greatest warriors. The few. The proud, the Marines.
Yay! Okay, on a cold day like today, bless your hearts, we need your warmth.
Alors ça, c'est le cercueil international là-haut, du droit international. Ça, c'est le cercueil
de ceux qui sont déjà morts.
De ceux qui sont déjà morts. Ça, c'est le cercueil
de la fin des libertés civiles et des politiques étrangères de violence.
Et là, c'est le cercueil d'enfants. Alors, il n'y a pas de commentaire. Ça, c'est le cercueil.
La fin des programmes sociaux.
Ça, c'est le cercueil des civils victimes de la guerre. Et ça, c'est le cercueil des combattants. Bonjour. Vous manifestez, vous êtes en train de porter ce cercueil de carton.
This is the anniversary of the death of Martin Luther King.
Ça, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Martin Luther King.
We're marching to commemorate that a year before he died, right there in Riverside Church.
Un an avant sa mort, juste ici de l'autre côté, là, à l'église de Riverside Church.
He preached a sermon against the Vietnam War, and
we're. Il a fait un discours contre la guerre au Vietnam.
Et il faut bien dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, qu'il faisait bien froid ce matin-là à Manhattan, sur le côté de Riverside Church, pour l'anniversaire de la mort de Martin Luther King, une poignée de manifestants contre cette guerre. Donc c'était en avril 2003, le monde entier, souvenez-vous, était contre, mais l'opinion américaine, soigneusement travaillée par les médias, soutenait cette offensive. Mais il y avait des dissidences, il y a toujours des dissidences, et nous étions avec cette dissidence, cette petite manif à Manhattan, quelques-uns avaient échappé au lavage de cerveau.
Right now, there's no good guys. Saddam's bad and Bush is bad.
Maintenant, il n'y a pas de mec bien. Saddam est mauvais et Bush est mauvais aussi.
And we're going to kick Bush's ass out of the Oval Office next year when he runs for president.
Et l'année prochaine, on va donner des coups de pied au cul de Bush pour le faire sortir de son bureau.
Hey, vous étiez au Vietnam, vous êtes un vétéran du Vietnam?
Yes, I was in the Navy from 1964 to 1968.
Oui, j'étais dans la marine de 1964 à 1968.
And so when I got out in 68 and I saw the Tet Offensive on television.
Et alors quand je suis parti en 68 et que j'ai vu l'offensive de Tet à la télévision.
January 68.
En janvier 68.
And I heard Walter Cronkite.
Et j'ai entendu Walter Cronkite qui était le présentateur à la télé.
On Channel 2 say we should declare victory and leave and say we did the best we could.
Quand j'ai entendu dire on devrait déclarer la victoire et dire voilà, on s'en va, on a fait le mieux qu'on pouvait.
And that's when most people in America started to turn against the war.
C'est à ce moment-là que la plupart des gens en Amérique se sont retournés contre la guerre.
Dans les manifestations, je me souviens qu'on disait, hey Lyndon Johnson, combien tu as tué d'enfants aujourd'hui?
Hey, hey, yeah, we got a new one now.
On a un nouveau maintenant.
Want to hear it?
Vous voulez l'écouter?
You ready for it?
Ouais.
This is the new one, right? Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Hey Bush, qu'est-ce que t'as à dire? Combien d'enfants t'as tué aujourd'hui?
Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Defending democracy by denying liberty at home and away. And I can say I'd rather stay in Woomera or Hamilton, telling all the children their religion to stray. Well, I wanna
Madame Irak, vol d'une jeunesse et viol d'une génération. En avril 2003, nous voilà à Mobile, en Alabama, pour une cérémonie très particulière. Les cercueils commencent à revenir, les cercueils commencent à rentrer. Et celui-là, c'est un cercueil peut-être un peu particulier qui contient un jeune homme noir, Marines. Et cette cérémonie est dirigée par Howard Johnson, qui est le père de ce jeune homme. On est dans le quartier noir de cette ville de l'Alabama, et le révérend Howard Johnson parle. L'église baptiste de Mobile, dans le quartier noir de Mobile. Il y a beaucoup de monde pour les funérailles de Howard Johnson II, le fils de Howard Johnson. C'est important de dire, de faire la différence, parce que Howard Johnson II, c'est un jeune garçon de 21 ans, un Marines, qui est mort en Irak, et aujourd'hui c'est ses funérailles. Et son père, Howard Johnson, est le pasteur de la paroisse où on se trouve. Et c'est toute la communauté noire de cette ville d'Alabama qui est là aujourd'hui. On s'est fait élégant et on regarde en direction de l'autel sur lequel est posé le cercueil, avec des fleurs, des bouquets, des couronnes, par exemple des fleurs qui représentent le drapeau américain. On soutient les troupes, même si c'est une guerre qu'on ne voulait pas faire. L'église est pleine, et maintenant c'est le père qui va parler. C'est le père du garçon qui est dans ce cercueil, Robert Johnson. Et le père est le pasteur de cette église. Jamais son église n'a été aussi pleine, avec des personnages aussi importants, que pour la mort de son fils. Il est en hauteur, c'est une scène extraordinaire, il est en hauteur devant un écran sur lequel une croix est projetée, et en dessous de lui, il a une veste rouge avec un drapeau américain dans sa pochette, et en dessous de lui, il contemple, il peut voir le cercueil de son fils. Et à droite et à gauche, il y a les officiels, les militaires, il y a le sénateur, il y a le gouverneur, il y a toutes les personnalités de la ville ici de Mobile, et de la communauté noire de Mobile, et de cette église baptiste de Mobile. Et c'est sans doute le sermon le plus terrible que cet homme va faire.
As a living sacrifice, because God asked him to. I would volunteer and went into the United States Army because he wanted to. He was there because he volunteered that service to the public. He lived like a prince.
Howard était volontaire pour rejoindre l'armée américaine. Je pense à ça comme au sacrifice d'Abraham qui était prêt à donner son fils.
pasteur Howard Johnson se compare à Abraham dans cette église de Mobile en Alabama. À Paris, on manifeste contre la guerre. C'est pas difficile évidemment de manifester contre la guerre puisque, grâce au ciel, le gouvernement n'a pas engagé la France dans cette guerre. C'est tout autre chose de manifester en Italie ou en Grande-Bretagne où le gouvernement a engagé, s'est engagé aux côtés des États-Unis. D'immenses manifestations, souvenez-vous, à travers le monde, notamment dans les pays que je viens de citer. En vain, évidemment, en octobre 2004, nous sommes à Richmond, en Virginie. Et là, dans cette ville de Richmond, au coin de la rue, il y a un homme seul avec un panneau qu'il porte devant lui, attaché autour de son cou, et il dit « Honk for peace, bring troops home ». Alors vous, évidemment, c'est klaxon et cette voix, ça ne vous dit pas grand-chose. Des petits coups de klaxon dans une ville de l'Amérique profonde, oui, évidemment, plus banal, il n'y a pas. Or, pour Larry Syverson, c'est la chose la plus importante du monde, c'est d'entendre ces coups de klaxon. Tous les vendredis, à une heure précise, à 13h, il est là avec un panneau accroché autour de son cou où il dit et il répète « Honk for peace brings troops home ». Klaxonner pour la paix, ramener les troupes à la maison. Il est tout seul. Il est contre cette guerre, il est pour la paix et il veut que les troupes reviennent à la maison. Et on a passé quelques instants avec lui.
So for 11 months, I had two sons at the same time in Iraq.
Pendant 10 mois, j'ai eu mes deux fils présents en Irak en même temps.
Honk for peace, bring troops home. Thank you.
Pourquoi vous avez choisi cette façon de manifester?
The federal courthouse here in town is the federal presence in our community, and so I'm against what the federal government is doing in Iraq. So
on est devant le tribunal fédéral, qui est l'incarnation du gouvernement fédéral ici dans notre État, et je suis contre la politique que mène le gouvernement fédéral américain en Irak.
When I first started this, I actually started protesting before the war.
En fait, j'ai commencé à manifester vraiment avant la guerre.
And before the war and during the war, most people were pretty mad at us and would yell at us and cuss us out.
Avant que la guerre commence, la plupart des gens en fait étaient vraiment très agressifs vis-à-vis de nous. Ils nous insultaient.
And the worst time for us protesting was May 1st last year when the president declared the war over, and then people were very mean to us.
Et le pire moment en fait, c'était le 1er mai de l'année dernière quand le président Bush a déclaré la guerre. Alors là, c'est vraiment le moment le pire pour nous. Les gens étaient vraiment très très agressifs.
But last fall, with the number of soldiers being killed rising every day, the more soldiers that have been killed, the more honks we get from people of support.
Et depuis l'automne dernier, avec des soldats qui meurent en plus grand nombre, et la plupart des choses qu'on entend, c'est des klaxons pour dire qu'ils sont d'accord avec nous.
Thanks. Honk for peace, bring troops home. Honk for peace, bring troops home. Thank you.
Ah, lui, il fait
le pouce vers le bas.
Pouce vers le bas, il n'est pas d'accord, lui.
Bush, what do you say? How many kids did you kill today? Hey, Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
La soldate Lynn England faisait jeudi la une du Washington Post. Sur une photographie prise dans un couloir de la prison d'Abu Ghraib, on pouvait la voir tenir en laisse un homme nu couché par terre. La jeune fille de 21 ans vient d'être inculpée par l'armée américaine. 4 chefs d'inculpation ont été retenus contre elle, préméditation de mauvais traitements, voies de fait, actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline, ainsi qu'actes indécents. Lynn England encourt une peine de prison, une amende et un renvoi dans la vie civile. civils. Selon un communiqué de l'armée, la soldate n'a pas été incarcérée et poursuit son travail à la base de Fort Bragg en Caroline du Nord. Il y a quelques jours, sa mère avait indiqué à la presse que sa fille n'avait fait que répondre aux ordres de ses supérieurs. New York, Céline Curiol, France Inter.
Avec les images d'Abu Ghraib, le vent commence à tourner pour les faucons et les néocons. Malgré toute la maîtrise de l'information, l'armée américaine ne peut dissimuler horreur et torture. Et ces images font le tour du monde. En octobre 2004, nous sommes à Fort Ashby. Fort Ashby, c'est le village originaire de Liddy England. Et il est très difficile de demander aux habitants de cette petite ville ce qu'ils en pensent. Ils ont vu défiler énormément de journalistes. Ils sont très fermés, assez agressifs avec les journalistes, et on peut les comprendre.
Do you think that a private in the military in the United States Army could accomplish all that by herself?
Est-ce que vous pensez qu'une petite soldate de l'armée américaine pourrait faire tout ça toute seule?
No.
Non.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a fait faire?
Definitely forced. And then the media is on the government side, so that's what they do.
Elle a été forcée à faire ça. Et les médias, eux, ils sont du côté du gouvernement. Et c'est pour ça qu'ils racontent cette histoire comme ça.
Par qui elle a été forcée? Par le gouvernement?
Maybe not forced, but enthused.
Peut-être pas forcée, mais on l'a poussée à faire ça.
Oh.
And really, who cares whether she did that to them people or not? They killed thousands of people with gas. They didn't care.
Et puis de toute façon, même si elle l'a fait, qui en a quelque chose à foutre?
Right?
Je veux dire, ces gens-là, là, qui l'a fait, ils ont tué des milliers de gens avec du gaz de combat.
And now they're cutting their heads off.
Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les têtes.
Donc ce qu'elle a fait, c'est pas si grave, quoi, pour vous, d'après vous?
I could care less.
Moi, en tout cas, je m'en foutrais. Moi, en tout cas, ça me fait ni chaud ni froid.
You know Sodom's people, right?
Vous connaissez les gens de Saddam, hein?
What they've done to the people where he lives?
Et vous savez pas ce que les gens de Saddam ont fait aux habitants de ce pays?
So what you've seen on TV, do you think he really done that?
Est-ce que vous avez vu à la télé, par exemple, que Saddam a fait? Vous pensez qu'il a vraiment fait?
So do you think what his people are, what his soldiers that actually done that stuff are getting, what they actually got from this girl doing this, is all that bad?
Alors, est-ce que vous pensez vraiment que ces soldats-là, qui ont fait toutes ces saloperies, est-ce que si c'est cette fille qui leur a fait subir ça, est-ce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils méritaient?
They answer straight and narrow. Do you think what they got, did they deserve it?
Répondez-moi clairement, est-ce que vous pensez que oui ou non, ils ont eu ce qu'ils méritaient?
Mais est-ce qu'il faut faire la même chose? La question, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de dégueulasse, est-ce qu'il faut faire la même chose?
An eye for an eye.
Œil pour œil, dent pour dent.
Neil Livingston. Alors, vous êtes le directeur de Global Option et vous expliquez dans votre présentation que Global Option, c'est comme une CIA privée, un ministère de la Justice, un ministère de l'Intérieur et un FBI réunis. Alors ça nous intrigue quand même beaucoup.
Well, we provide a full range of security services here and abroad. We also collect intelligence for businesses, what we call competitive intelligence, and we deal with crises all over the world today.
Notre domaine s'étend à la sécurité en général. Ça peut être aussi de la communication de crise, tout aussi bien que de l'intelligence économique, c'est-à-dire avoir des informations compétitives.
And these crises may take the form of everything from, say, racial and gender problems in the United States, natural disasters, such as we're seeing on the Gulf Coast today, or they might be, how do you deal with the Russian mafia? How do you do business in a very difficult place like, say, Uzbekistan or even Iraq today?
Et pour ce qui est des situations de crise, ça peut être aussi bien faire face à des problèmes de couleur ou des problèmes de genre, c'est-à-dire des problèmes raciaux, des problèmes sexuels aux États-Unis, comme faire face à des catastrophes naturelles, comme l'ouragan qui est en ce moment sur le sud des États-Unis. Mais ça peut être aussi s'implanter économiquement dans des pays très dangereux comme l'Ouzbékistan ou plus dangereux encore comme l'Irak. Jusqu'à maintenant, on est une société en pleine croissance. Aujourd'hui encore, on est dans les douzaines de personnes, mais ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, on vient de lancer un communiqué de presse comme quoi un grand fonds d'investissement à New York vient d'acquérir une participation dans notre société pour pouvoir augmenter sa capacité d'action. Et c'est pour ça que j'espère, dans quelques mois, on sera quelques centaines, et dans un an ou plus, quelques milliers.
Quel est votre chiffre d'affaires annuel?
We don't publish figures, but we've been profitable ever since our seventh quarter.
On ne donne pas de chiffres sur nos comptes, mais on est très très rentable depuis nos tout débuts.
C'est une chose qui s'est développée pendant cette guerre d'Irak, c'est ce qu'on appelle les PMC, Private Military Company, c'est-à-dire que des sociétés de sécurité se sont développées, certaines se sont rendues tristement célèbres, comme Blackwater's, mais il y en avait beaucoup d'autres, comme DynCorp, et comme celle-ci, Global Option. Des mercenaires, des militaires en disponibilité, toutes sortes de chiens de guerre recherchent des jobs bien payé derrière des vitrines présentables, humanitaires, etc. C'est très avantageux puisque vous pouvez être payé, par exemple, si vous êtes garde de sécurité chez Blackwater, vous pouvez toucher jusqu'à $1,000 par jour, sans compter l'assurance pour invalidité et l'assurance vie qui sont payées par le gouvernement. Mais l'intérêt pour le gouvernement américain, c'est que les morts de ces compagnies de sécurité privée ne sont pas comptabilisés. Et c'est ça qui est très important pour l'opinion, c'est cette comptabilité. Lorsque le taux de chômage en Irak a bondi à 60%, l'embauche d'Irakiens aurait été logique, dit Joseph Stiglitz, mais les entreprises, ces entreprises-là, ont préféré importer de la main-d'œuvre bon marché en provenance du Népal, des Philippines et d'autres pays. Quelqu'un s'est beaucoup penché sur ce phénomène des sociétés militaires privées, c'est Pete Singer que nous rencontrons dans son bureau de Brookings Institution, et il est l'auteur de Corporate Warrior.
Alors, depuis l'offensive en Irak, depuis la guerre d'Irak, ce phénomène connaît un développement formidable.
The industry started in the early 90s, but Iraq is by far the largest job site for this industry. On the ground in Iraq today, we have more than 60 private military firms providing more than 20,000 private military contractors.
Cette industrie, ce business a commencé au début des années 90, mais c'est avec la guerre en Irak que vraiment ça a explosé. Aujourd'hui, en Irak, il y a plus de 60 sociétés privées qui emploient plus de 20 000 soldats privés.
To put that into context, it means that the private military industry has more soldiers on the ground than any other member of the coalition. And so I joke that perhaps we should call it, instead of the coalition of the willing, the coalition of the billing.
Et pour vous donner un exemple très clair, c'est que toutes ces sociétés privées qui utilisent des soldats en Irak emploient plus de soldats que n'importe quel autre pays membre de la coalition. Et quand on dit, par exemple, la coalition de ceux qui sont engagés contre la guerre contre le terrorisme, moi je dirais vraiment engagés au sens propre du mot, engagés avec une facture derrière.
Ce que vous dites aussi, c'est que l'Irak est une mine d'or pour les private military firms, mais que cet or en question, ces budgets extraordinaires en question, eh bien, sont payés par ceux qui payent des impôts aux États-Unis.
True, in Iraq, that is the situation, but I think it is important to note again, the U.S. is not the only client in this industry. It is the biggest client, but the industry has worked for over 50 countries on every continent.
Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut noter, c'est que les Américains ne sont pas du tout les seuls à faire appel à un tel marché. C'est vrai que c'est les plus gros employeurs, c'est les plus gros contracteurs, mais il se trouve par ailleurs que les Européens sont très bien placés sur ce marché aussi. Puisqu'un exemple, c'est que les troupes européennes qui sont actuellement déployées en Afghanistan, leur support aérien est fait par des sociétés militaires privées.
And many of the American companies that are there, like DynCorp and MPRI and so on, are much larger in terms of their reach. And this is what they
Global Option.
Oui, il y a beaucoup de sociétés qui sont implantées en Irak justement pour ces opérations, comme DynCorp, comme MPRI, qui sont des sociétés très importantes et qui sont principalement axées sur ce créneau-là. Nous, nous avons un champ d'opérations beaucoup plus large qui nous rapporte aussi bien. C'est pour ça qu'on a choisi tactiquement de ne pas s'investir massivement en Irak.
There are literally hundreds of American companies providing security services and logistics and other support services.
Il y a des centaines de sociétés américaines qui sont là pour des services de sécurité, de logistique ou de transport.
Des centaines, vous dites, des centaines.
Hundreds. And we were partnered in the past with a company called Blackwater, which is a company that trains very high-level security people in Iraq and Afghanistan today. They've fought a number of pitched battles over there.
Il n'y a pas longtemps encore, nous étions associés avec une société qui s'appelle Blackwater, qui est très présente là-bas, et qui a dû faire face à de très très nombreuses attaques. Et il y en a une, par exemple, on a appelé ça Fort Apache, parce que l'équipe de Blackwater qui était sur place a été encerclée et a dû faire un combat à l'arme à feu pendant plusieurs heures, encerclée pendant plusieurs personnes, et ils ont dû tuer à peu près une trentaine de personnes.
Et vous vous voyez comme la cavalerie, hein? Dans votre dépliant publicitaire, la cavalerie, c'est vous.
Yes.
On parle du coût de la guerre en Irak pour les États-Unis. C'est plutôt le chiffre d'affaires global qu'il faut considérer pour toutes ces sociétés qui profitent et qui font du business. On a souvent parlé de Bechtel ou de Halliburton. Le point de vue de Pete Seeger.
Since the early 1990s, there's been the growth of a new type of defense company, a company that doesn't manufacture the goods of warfare, doesn't make tanks.
Depuis le début des années 90, il y a eu l'apparition de nouvelles firmes dans l'industrie militaire, et c'était pas des firmes qui produisaient des tanks ou produisaient des avions de guerre ou des bateaux de guerre, mais c'est des sociétés qui fournissaient des services militaires.
Est-ce qu'on peut parler d'une privatisation de la guerre?
Yes, it's both the privatization of war and the globalization of the defense industry.
Oui, c'est à la fois la privatisation de la guerre et la globalisation de l'industrie de défense, de l'industrie militaire.
The industry does as much as $100 billion worth of business each year, and they operate in over 50 different countries. They've worked on every single continent except Antarctica.
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a un chiffre d'affaires annuel mondial qui est plus de 100 milliards de dollars et qu'elles sont présentes sur les 5 continents. Le seul continent sur lequel de telles sociétés militaires privées ne sont pas opérationnelles, c'est l'Antarctique.
In Iraq, they're carrying out essentially three tasks. One is that they're handling the support tasks for the U.S. military, for example, running the supply chain.
En Irak, ils sont occupés à trois tâches principalement. La première tâche, c'est tout ce qui est de la logistique et du suivi de l'effort de guerre américain, c'est-à-dire les livraisons, la nourriture et aussi de la réparation des systèmes militaires.
The first task is actually very lucrative. Halliburton has built more than $4.3 billion last year for that task, and is thought to build another $10 billion this year. So, not mercenary sounding, but actually very profitable.
Et ce premier type de tâche qui est fixé aux sociétés militaires privées n'a pas nécessairement des armes en avant, mais quand même est celle qui rapporte de loin le plus d'argent. Par exemple, la société Halliburton a réalisé l'année dernière plus de 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et compte en réaliser cette année 10 milliards de dollars.
So the second task is training and advising. They won't fight the battle for you, but they'll teach you how to fight the battle better. And in Iraq, that means that the police, the paramilitary force, and the army of the post-Saddam Iraqi government will all be trained and advised by private companies.
Le deuxième type d'activité, c'est l'entraînement et la formation des troupes militaires. C'est-à-dire que vous ne pas combattre à votre place, mais on va vous apprendre à mieux combattre. Et en ce moment, en Irak, la police, les forces paramilitaires et l'armée sont en train d'être formées par des sociétés privées.
And the third task is the one that shows the most sort of obvious evolution from the mercenaries, from the Bob Denards. And these are companies that actually will do fighting for you. And in Iraq, that means companies that
et le troisième type de travail qui est fait par ces sociétés militaires privées, c'est celle qui est l'héritière directe de ce qu'étaient les mercenaires à la Bob Denard auparavant. C'est-à-dire, c'est eux qui vont être armés. Et leurs travaux, ça va être principalement de garder des lieux sensibles, d'escorter des personnalités comme le Premier ministre Alaoui ou Paul Bremer, et escorter des convois de ravitaillement militaire.
I am the terrorist. War and danger. continuing danger.
Hour of danger.
Very, very dangerous world.
September 11th.
September 11th. September
11th. Radical ideology of hate.
Zaslovski, on est là dans votre bureau, dans ce petit immeuble du syndicat de la métallurgie.
Métallurgie, oui.
C'est ça. Et sur la porte, c'est War Resisters Support Campaign, c'est-à-dire campagne d'appui aux résistants à la guerre. Sauf que vous, c'est la fois d'avant que vous avez déserté,
oui.
Comme des milliers, à l'époque, comme des milliers de jeunes Américains qui ont refusé, ont préféré venir se planquer au Canada et ont été bien reçus. Vous avez été...
Oui, très bien. Moi, je suis un déserteur conscrit en 69 et je me suis présenté à l'armée. J'ai eu l'entraînement et puis on m'a donné des ordres pour aller au Vietnam. J'étais opposé à la guerre au Vietnam et donc je suis venu ici au Canada en 70. Mon job maintenant,
Toronto,
c'est
avril 2007.
D'aider les résistants à la guerre qui viennent au Canada à cause de leur opposition à la guerre en Irak. La nouvelle génération, comme on dirait, des deserters de la guerre du Vietnam.
La situation est différente entre votre génération du Vietnam. À l'époque, c'était la conscription. C'est-à-dire que les jeunes gens de votre génération devaient y aller. Aujourd'hui, ce sont des engagés, ce sont des jeunes gens qui s'engagent.
Qui s'engagent, oui. C'est une conscription de pauvreté. Que beaucoup d'entre les Américains, les opportunités qui leur sont présentées sont si petites que la carrière militaire leur paraît la meilleure.
Oui, c'est-à-dire qu'on parle toujours du patriotisme américain, mais la plupart des jeunes gens qui partent en Irak ne partent pas par patriotisme.
Absolument pas. L'armée leur dit « c'est une bonne carrière ». Vous pouvez vous avancer, apprendre pour la vie civile. Après votre service, vous allez recevoir des bonus de quelques dizaines de milliers de dollars. Et c'est une proposition plutôt économique que patriotique.
My name is Finn McDowell. I come from Rhode Island. I'm 26 years old.
J'ai 26 ans, je m'appelle Finn McDowell et je viens de Rhode Island.
Alors, dans quelles conditions tu es parti en Irak?
Well, I originally joined the army in November of 2001. It was right after the September 11th attacks.
Je me suis engagé dans l'armée en novembre 2001, juste après les attaques du 11 septembre.
That happened, and I thought, you know, this was coming to my that point in my life where I was graduating. You know, this is something that's going to be really important for my generation, and I thought that by joining the army, it was going to be patriotic and help me out and use my skills to do something good.
Je venais juste de finir mes études, et je me suis dit, voilà, maintenant je suis. Il faut que j'aide mon pays, c'est un moment décisif et je vais peut-être apporter ce que je sais faire pour pouvoir aider mon pays, vraiment par patriotisme.
Et donc tu es parti en Irak?
I went there in March 2004 and I was there for a year until March 2005.
J'ai été envoyé là en mars 2004 pendant un an, donc j'y suis resté jusqu'en mars 2005.
Tu étais d'accord? Tu étais dans quel état d'esprit?
Of course, when I first signed up, Iraq wasn't even in the picture.
Mais bien sûr, déjà, quand moi je me suis engagé dans l'armée, il n'était pas question de partir en Irak à cette époque-là.
Oui. During my training is when they started talking about all these weapons of mass destruction, these links between Saddam Hussein and Al-Qaïda, 9/11.
Et c'est pendant justement toute ma formation militaire, c'est là où ils ont parlé des armes de destruction massive, de tous les liens qu'il y avait entre Saddam Hussein, Osama bin Laden et Al-Qaïda.
And then I. I think most Americans did believe it, and I believed it.
Et comme la plupart des Américains, moi aussi j'y ai cru à ça, cette histoire.
And even though I was aware of the international opposition to all that intelligence, I still felt like I had no reason not to believe it.
Et même si j'étais au courant de toute l'opposition qu'il y avait dans le reste du monde à cette guerre, je voyais pas de raison de m'y opposer, si c'était vrai.
So then, when I deployed there, I went under the assumption that I was going there to find these weapons of mass destruction.
Quand j'ai été envoyé là-bas, moi, je pensais vraiment qu'on allait pour y chercher ces armes de destruction massive.
So I was asking my superiors, my commanders, what are we here for if all this stuff is false? And they're telling me that, we're here to help the Iraqi people.
Et alors, je demandais à mes officiers, à mes supérieurs, mais alors si toute cette histoire d'armes de destruction massive est fausse, qu'est-ce qu'on fout ici? Et eux, ils me répondaient, on est là pour aider le peuple irakien.
Entre les voix des jeunes gens si gays entendus à Marseille en décembre 2002 et ce jeune homme rencontré à Toronto en avril dernier. Voilà, c'était bon anniversaire. La guerre a signalé un livre d'Anthony Arnov avec une préface de Howard Zinn publié aux éditions Démopolis Irak, retrait immédiat. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Céline Bonhomme. C'était évidemment des reportages avec Guy Van Til qui faisait les traductions. Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert attend vos messages au 01 56 40 37 37. Et notamment et surtout, les plus précieux en ce moment, c'est vos témoignages sur la mai 68. Je me souviens de mai 68. Réclame.